Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ici Camille Chai. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et oui, comme toujours, et aujourd'hui, je reçois Martine Bédard. Elle est cofondatrice et administratrice du groupe Facebook Mousquetaire avec Canne Blanche. Elle est aussi bénévole pour l'Institut national canadien pour les aveugles et le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Alors, elle est là aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Et je reçois aussi Valérie Jessica Laporte, qui elle est designer, photographe, auteur d'un roman, conférencière. Vous allez voir, elle va nous faire découvrir son univers unique et coloré. Et c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Martine Bédard, bonjour.
Bonjour Camille.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous?
Je vais très bien aussi, merci. En fait, on ne peut qu'aller bien quand on vous entend.
Gentil.
Ah ben oui, franchement. Martine, je vais prendre le temps de vous présenter. Vous avez 54 ans, vous habitez à Laval, vous avez un fils de 21 ans. Et comme je viens de le dire, en fait, vous faites beaucoup de bénévolat. Vous êtes impliquée aussi au niveau du groupe Facebook que vous avez vous-même cofondé et que vous administrez en ce moment. Donc, je le répète hein, pour ceux qui sont intéressés, le groupe s'appelle Mousquetaire avec Canne Blanche. J'ai envie de vous demander tout de suite en quoi consiste ce groupe Facebook.
Ce groupe Facebook a été créé l'an passé par moi et deux amis que j'ai rencontrés lors de groupes de discussion à travers les divers organismes qui offrent des groupes de soutien pour les gens qui ont perdu la vue. Et ce groupe consiste, dans le fond, à briser un peu l'isolement. On essaie de permettre aux gens partout du Québec qui sont handicapés visuels ou qui sont des proches d'handicapés visuels pour leur permettre de connaître ce qui se passe dans le monde des handicapés visuels et de discuter avec d'autres gens qui leur ressemblent. Vous savez, lorsqu'on tisse des liens d'amitié, c'est important de se retrouver entre nous, je vais le dire comme ça. Quand moi, j'ai perdu la vue, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient. Je trouvais que c'était important qu'on l'offre à notre communauté. Et on offre des jeux de société, on offre du karaoké, on fait des salons le soir de discussion, de parler pour jaser de toutes sortes de choses. Wow. Alors, le groupe Mousquetaire sert beaucoup à discuter, partager et s'amuser.
Wow! Ça donne envie, mais en fait, ça donne de l'espoir aussi parce que si on remonte un peu dans le temps pour connaître votre histoire à vous, en fait, il vous est arrivé toute une aventure au mois d'août 2018 dernier.
Exact. Alors, mais pas dernier, excuse-moi Camille, c'est 2018, ouais?
Oui.
Tu avais dit 2018,
oui.
2018, oui, effectivement. Je me suis réveillée avec une espèce de grippe musculaire. Je suis rentrée à l'urgence et malheureusement, j'avais plus que ça. Donc, j'ai perdu mon système immunitaire quelque part dans le mois de juillet. Donc, mon système a arrêté de faire des immunoglobulines, donc des soldats, pour combattre tout type de virus. Et j'ai attrapé malheureusement un virus de type pneumocoque, donc qui aurait donné à une personne ayant un système immunitaire normal une grosse pneumonie.
D'accord.
Mais pour moi, ça a été autre chose. Ça l'a affecté mon corps de toutes les façons, grosse méningite, pneumonie énorme, mais ça l'a aussi affecté mes yeux. Donc, ça l'a affecté la pression dans les yeux, mais contrairement aux gens qui font du glaucome, moi, je n'ai pas de pression dans les yeux.
D'accord.
Et je suis malheureusement aussi immunosupprimée. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas d'anticorps, donc je dois prendre un médicament pour me permettre de combattre les petites grippes normales.
Et surtout dans un contexte comme dans celui qu'on vit, en ce moment, en pandémie, c'est un sujet qui est très fragile et sensible auquel vous devez faire très, très attention.
Tellement, oui,
c'est
effectivement.
Ça.
Avant la pandémie, je devais faire attention parce que une grosse pneumonie ou quelque chose de grave en virus pouvait m'attaquer ou pouvait me blesser. Mais là, je fais comme partie des gens extrêmement vulnérables à cause du COVID, c'est sûr et certain. Fait que je dois, mes câlins, mes poignées de main, mes bisous aux gens de mon entourage, malheureusement, ils sont beaucoup, beaucoup restreints.
Et oui, on imagine bien.
Oui.
Et donc, parmi cette période-là, je veux dire, vous avez quand même vécu beaucoup de choses physiquement au niveau de votre santé. Vous avez passé combien de temps à l'hôpital?
Mais j'ai été en tout et partout environ 2 mois à l'hôpital, 5 semaines aux soins intensifs pour combattre, dans le fond, le virus que j'avais attrapé. Après 2 mois, donc vers la fin, le début fin octobre, mi-octobre, quelque chose comme ça, je suis revenue à la maison totalement non-voyante, avec un système immunitaire endommagé ou inexistant. Puis, ça a été une période très, très difficile, le retour à la maison et la non-voyance, car moi, j'étais une femme active avec un travail, avec une maison, avec un conjoint, un fils. J'étais une femme très active dans la vie. Et là, je me ramasse avec un handicap que je ne connaissais pas.
Et non.
Alors, à la maison, je vous dirais que pendant la première année de mon handicap visuel, avant de réussir à avoir un peu d'aide, j'ai été un an je vais le dire sincèrement, à être en petite boule dans le coin et à vouloir mourir à tous les jours parce que je ne voulais pas vivre de cette façon.
Aïe, 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 ça
Mais,
prend, ça demande une résilience d'en parler et de le dire comme ça, parce que c'est dit en une phrase, mais le vécu derrière est tout autre.
Oui, mais je crois que c'est important parce que vous savez, je veux dire, un accident ou une
Oui.
perte de un choc de cette envergure, il y a plusieurs choses qui peuvent vous arriver. Moi, j'étais une personne très, très forte, très positive. Je voyais toujours le verre à moitié vide, jamais à moitié plein. Puis là, je me ramasse de façon très, très, très vulnérable. Puis je pense que c'est important de faire face à ça puis de l'exposer parce que je suis pas la seule comme ça.
Non.
Fait que je me dis que c'est important de le dire, puis je suis pas gênée de le dire à tous les jours, jusqu'à ce que je réussisse à sortir un peu de ma torpeur, parce que c'est important de dire que j'en ai sorti, puis je suis très heureuse d'en être sortie. C'est pas vrai que ma vie était terminée, mais au moment où on le vit, c'est le cas.
Mais vous avez raison, Martine, c'est vrai que c'est important d'en parler, mais en fait, vous nous dites, en d'autres mots, que c'était presque une période ou un passage nécessaire malgré tout, même si c'était plus noir, c'est nécessaire de vivre ça et de passer à travers.
Dans ma situation, je pense que oui, parce
OK.
que je crois que je suis ressortie de cela avec beaucoup d'outils et forte dans ma vie, plus forte dans ma vie, pour dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre. Donc, j'ai envie de me battre, j'ai envie de m'impliquer dans ma communauté, puis j'ai envie de faire des choses intéressantes, avoir du plaisir, puis c'est pas vrai que ma vie, elle est terminée. Puis c'est ça qui me pousse peut-être à faire du bénévolat
Oui.
avec Mousquetaires, avec les organismes avec lesquels je m'associe. Puis je trouve que c'est important de s'impliquer dans la communauté des handicapés visuels.
Oui, parce que vous l'avez dit déjà tout à l'heure, c'est important de se rassembler et s'entourer de personnes qui nous ressemblent ou qui vivent plus ou moins la même chose que nous. On est des êtres humains, on est des êtres de relation avant tout. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous a aidé à faire la transition entre cette période plus difficile et ce moment où vous êtes sorti de votre torpeur, comme vous dites, de cette boule noire, et que vous avez commencé à reprendre espoir et voir la vie d'un œil différent?
Ben, je fais partie des gens chanceux, je vais le dire comme ça, puis peut-être que j'ai créé ma chance là-dedans. J'ai un conjoint que je salue aujourd'hui qui s'appelle Gino, qui est un homme extraordinaire, qui est un homme qui m'a soutenue dans les pires temps de ma vie, même si j'ai voulu le pousser de ma vie lorsque j'étais dans ma torpeur de noirceur.
Ah oui, hein?
Oh oui, parce que, vous savez, quand tu es une femme, encore une fois, pleine de vie, avec pas très vulnérable, et là, tu deviens vulnérable à cause de l'handicap que tu es en train de vivre. Mm-hmm. Puis moi, je me disais, mais ma vie, elle est finie à moi, mais pas la sienne. Donc, va-t'en, va-t'en. Puis j'ai essayé de... Et c'est un homme qui a une résilience énorme, qui a un bon caractère, puis qui a mis son pied à terre, puis qui a dit, là, tu vas arrêter d'essayer de me pousser. Moi, je suis là pour la vie. Je te l'ai dit que j'étais là pour la vie et il est resté près de moi et il m'a aidé à sortir de tout ça.
Que c'est beau, la puissance de l'amour malgré tous ces obstacles et ces choses qui se posent sur notre chemin qu'on peut vivre.
Ouais, et je le remercie à tous les jours aujourd'hui d'être resté près de moi. Là-dedans, mais j'ai aussi mon fils qui m'a aidé là-dedans. Là. Je ne veux pas dénigrer et les amis et toutes les gens autour de moi. J'étais une personne entourée, mais je nomme mon conjoint parce que c'est lui qui m'a vraiment soutenue dans les pires moments, je vais le dire comme ça.
Oui, parce que bon, votre conjoint, c'est votre conjoint. Vous avez votre relation, votre intimité à vous deux, malgré votre nouvelle vie. Je ne sais pas si vous la décrivez de cette façon-là. Mais c'est très beau la reconnaissance que vous avez envers lui et la façon dont vous parlez de lui, parce que il y a ce côté, en fait, cette ligne mince où on peut parler d'avoir un conjoint trop protecteur quand on a un handicap ou une difficulté quelconque. Il faut réussir à trouver son équilibre à travers tout ça.
Oui, puis je pense qu'on c'est sûr et certain que, tu sais, des fois je dis qu'il est un peu papa-poule, mais c'est aussi correct parce que je dois aussi respecter ses craintes à lui là-dedans. Donc, à quelque part, je pense qu'on chemine bien ensemble, puis ça me rend plus forte. Puis ben lui aussi, ça l'a rendu peut-être plus vulnérable, plus fort, il a appris là-dedans comme moi, puis ça m'a fait qu'on est devenu encore juste plus fort.
Plus fort dans cet amour, et c'est la parfaite occasion pour moi vous inviter à écouter la chanson que vous avez choisie, que vous nous suggérez. On l'écoute et on en reparle tout de suite après.
Parfait.
Children's laughter
Quelle belle chanson de Greatest Love of All de Whitney Houston. Martine, c'est votre choix de chanson. On se doute un peu, hein, qu'est-ce qui vous inspire, mais je vous pose la question quand même. Pourquoi vous aimez cette chanson?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs facettes à la chanson. Vous savez, il y a l'amour d'un conjoint. Il y a mon amour pour mon conjoint. Il y a son amour pour moi. Mais il y a aussi mon amour propre. Donc, tu sais, le fait que je l'avais perdu. Et je l'ai retrouvé. Mm. Puis à l'intérieur de ça, tu sais, à un moment donné, ça dit « Never to walk in anyone's shadow ». Bien, j'ai pas envie d'être dans l'ombre. Moi, je crois vraiment que tous les êtres humains devraient être en avant. Puis l'handicapé visuel qui est souvent dans l'ombre, on devrait pas rester dans l'ombre. On devrait sortir et être là et être présent. Partout dans notre société.
Eh mais oui, mais vous le dites tellement bien et c'est ce qui explique pourquoi vous vous impliquez autant. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'aimerais en savoir plus sur votre façon de vous impliquer au niveau justement des organismes qui amènent de l'aide aux personnes qui peuvent perdre la vue. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le retour à la maison est souvent une étape très difficile où vous êtes beaucoup dans la solitude.
Oui, effectivement. Puis, je pense qu'un des premiers organismes que je voudrais vous parler, c'est peut-être la Fondation IMCA, mm-hmm. qui est vraiment un groupe extraordinaire. C'est là, d'ailleurs, où j'ai vraiment retrouvé des gens qui me ressemblent. Parce que mon premier groupe de soutien, c'était avec des gens malvoyants, non-voyants, puis on discutait des problèmes de deuil, du choc, etc. Mm-hmm. Puis c'est des groupes qui... C'est sûr que ce n'est pas des groupes faciles parce que tu te fais confronter à plusieurs émotions, mais c'est là où tu rencontres, tu te dis, mais je ne suis pas toute seule là-dedans. Il y a telle personne, puis tu retrouves des gens qui te ressemblent. Et même certains intervenants à la Fondation IMCA sont aussi malvoyants et non-voyants. Donc, tu te dis, mais ces gens-là, ils comprennent. Ils ont marché dans mes souliers.
Voilà.
Donc, c'est vraiment, vraiment, pour moi, ça a été une révélation, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux redonner à cet organisme-là. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré mon amie Lucie, mon amie Linda, avec qui j'ai cofondé Mousquetaire avec Canne Blanche. C'est parmi des groupes comme ça qu'on s'est retrouvés, parce que moi, je pensais que j'étais seule au monde à avoir vécu un virus, mais c'est pas vrai. Il y en a d'autres.
Voilà.
Fait que c'est important. Fait que la Fondation, c'est une des premières organismes que j'ai voulu m'associer, puis donner du temps, puis faire du bénévolat. Avec cet organisme. Et ben, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain offre une gamme extraordinaire d'activités. Puis avec la pandémie, ils ont changé leur façon de faire. Ça se passe maintenant par la plateforme web Zoom.
Mm-hmm.
Puis ça permet de faire des activités et d'assister à des conférences hyper intéressantes, de bouger aussi, même à l'intérieur de notre maison. Je fais du gym, je fais de la danse.
C'est merveilleux.
C'est extraordinaire.
Ben oui, complètement. Donc, pour connaître un peu ces détails-là, une personne qui est non-voyante, qui nous écoute en ce moment, de quelle façon elle peut accéder à ces informations?
Ben, moi, je vous dirais, c'est sûr que par le site web, la Fondation IMCA est accessible. Là, j'ai pas le numéro de téléphone sous la main, mais peut-être qu'on pourrait en parler un autre moment donné. Et c'est la même chose pour le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Si vous avez des amis qui peuvent vous aider à trouver ces deux sites-là sur le web avec leur numéro de téléphone, inscrivez-vous. La Fondation, vous n'avez qu'à vous inscrire à leur infolettre. C'est gratuit. Et le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, il y a une petite donation qui doit être faite par année.
D'accord.
Mais c'est des regroupements, c'est des groupes extraordinaires pour les handicapés visuels. Et bien sûr, il y a Mousquetaire sur Facebook.
Oui.
Si vous êtes un petit peu à l'aise sur Facebook, venez nous faire une demande. Et si vous avez besoin d'aide, même en technologie, on a des super spécialistes. C'est des membres, c'est des gens handicapés visuels comme vous qui peuvent vous aider à vous promener à l'intérieur de Facebook, sur notre plateforme, etc., etc. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre.
Bien, l'invitation est lancée, Martine. Merci de partager ces belles ressources parce qu'on comprend très bien que ça change complètement une vie quand on passe d'une personne voyante à non-voyante. Je veux dire, on n'a pas besoin de l'expliquer de plus de long en large. Mais vous, Martine, par exemple, parce que là, on parle de site Internet, de Facebook, donc tout ce qui touche un petit peu la technologie, vous en êtes où par rapport à ça pour justement vous divertir? Qu'est-ce que vous utilisez?
Ah, oh, mais moi, dans les dernières, ça fait 2 ans et demi là, maintenant que je suis non-voyante, j'ai fait plusieurs formations avec, bien sûr, l'Institut Nazareth Louis Braille, qui, sans elle, j'aurais pas connu tous ces organismes-là. Là. Ça commence là aussi. Ces gens-là, on m'a donné des formations, travailleurs sociaux, formatrices de vie, que moi, j'appelais pour t'aider dans la cuisine. Mais au point de vue technologique, j'ai eu beaucoup d'aide par l'Institut et aussi au point de vue de la Fondation INCA qui donne des formations en ligne qui vous permettent d'utiliser votre téléphone cellulaire. Et moi, je suis une spécialiste de mon téléphone cellulaire. Je m'amuse beaucoup. Je vais partout avec mon téléphone cellulaire. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, un outil qui me permet de rester connectée. Et bien sûr, l'ordinateur avec la voix qui s'appelle Jazz. Mm-hmm. Donc, j'utilise aussi mon ordinateur. J'utilise un scanner qui s'appelle OpenBook. Wow. C'est des outils qui m'ont été je vais dire offert par la RAMQ, par l'Institut Nazareth Louis Braille, qui me permettent d'être autonome au point de vue technologique. Et ça, c'est extraordinaire. Mmh.
C'est beau, hein, ce que la technologie peut nous permettre de faire. Moi, je trouve ça impressionnant à chaque fois. J'ai envie de vous amener ailleurs pour connaître un peu... certains... Oui, on appelle ça des malaises, mais des moments qui vous demandent de prendre un petit peu plus sur vous en tant que femme. Je sais que ça se passe beaucoup au niveau des choses personnelles. Pour vous, qu'est-ce que ça vous a demandé comme adaptation qui vous vous habituez, mais qui reste quand même un peu difficile à vivre parfois?
Ben, vous savez, souvent on a des... dans la vie, qu'on soit handicapé ou non, on a des frustrations. Il y a des choses qu'on fait, il y a des petites erreurs de parcours qui nous fait frustrer. Là, tu sais. Mais moi, il y en a quelques-unes que malheureusement, je vis encore. Vous savez, quand on est totalement non-voyante, on ne voit pas d'ombre, on ne voit rien de ça. Alors moi, aller chercher un verre d'eau, une tasse de café que j'ai placée sur le comptoir, elle doit être placée à la bonne place. Mm-hmm. Puis... renverser un verre d'eau ou un café, c'est très difficile parce que tu te ramasses à quatre pattes, tu ne veux pas l'oublier, etc., etc. C'est difficile. Je pense que la chose que j'ai vécue dans mon 2 ans et demi, le plus difficile, c'est de s'assurer qu'on... là, je ne veux pas... Vous savez, quand on va à la salle de bain ou on va dans des endroits publics. Bon, je suis allée voir un spectacle avec mon conjoint en plein air. C'était la pandémie, mais en plein air. Et il y avait des toilettes chimiques. Mm. Vous savez, quand on est non-voyant, on touche à tout.
Oui,
on touche partout, on n'a pas le choix.
Oui.
Puis, je ne suis pas une personne très dédaigneuse, mais à un moment donné,
il y a des limites.
Il faut garder une certaine limite.
Mais oui.
Aller dans une toilette chimique, pour moi, c'est la chose la plus difficile. Et en plus, pour pas toucher partout, je dois demander à mon conjoint de venir avec moi. Mm-hmm. Alors, je vous dis ça avec toute candeur que je peux l'avoir. Puis là, je me dis, wow, ça va passer à la radio, ça. Mais vous savez quoi?
Mais oui.
C'est une vérité pareille.
Voilà.
C'est de dire, est-ce que tu peux entrer avec moi pour m'assurer de m'aider pour que je touche pas à la bolle, que je touche pas au côté, que je touche pas à rien, que j'ai pas envie de toucher. Oui, je vais me laver les mains après, mais j'ai pas envie de toucher. Alors, je pense que c'est un des malaises qui est le plus difficile. Alors, les toilettes publiques, je trouve ça très difficile.
Ben, je pense qu'on est tous de tout cœur avec vous, tous ceux qui vous entendent aujourd'hui, mais merci de nommer ces choses simplement et telles qu'elles sont, parce que ça fait partie de la vie et des choses voilà, que tout le monde peut vivre, mais merci de nous sensibiliser à ce niveau-là. Il nous reste seulement quelques minutes, Martine, mais quand même, je veux nommer le fait que vous avez d'autres passions aussi. Avant, vous étiez passionnée par tout ce qui est médiéval.
Oui, il y a plusieurs années, j'ai fait beaucoup de spectacles médiévaux avec le père de mon fils. Puis on a créé un regroupement, on a fait des mariages, on a fait beaucoup de choses. C'était vraiment des rôles, on a fait des spectacles en plein air. Aujourd'hui, je n'en fais plus, j'ai arrêté il y a plusieurs années. J'ai encore des amis qui en font et c'est extraordinaire. Puis mes autres passions, sont... la bière, je suis passionnée de bière. Je courais les festivals de bière pour goûter à toutes sortes de bières. J'aime toutes les bières. Il y en a que j'affectionne plus que d'autres. Puis j'ai une amie avec qui qui partagent ma passion des bières, alors c'est encore plus intéressant. Et une autre passion que j'ai, c'est les jeux de société. Donc, ensemble, on a adapté plusieurs jeux de société pour lesquels je puisse continuer à jouer, même en tant qu'handicapé visuel. Alors, je trouve ça vraiment extraordinaire d'être capable d'avoir des amis qui me soutiennent.
Ah, mais oui, c'est extraordinaire, rien de moins. Et en une minute, Martine, qu'est-ce que vous voulez passer comme message à nos auditeurs?
Ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas dans l'ombre et sortez. Venez nous voir. Abonnez-vous au regroupement qui existe partout. Puis, soyez présents et amusez-vous, la vie est belle.
Magnifique. On se quitte sur ces belles paroles. Martine Bédard, merci infiniment et bonne chance. Je vous souhaite plein de plaisir encore.
Merci beaucoup, Camille. À vous demain.
Merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Valérie Jessica Laporte.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Oui, Camille Chai, je suis toujours présente et je suis très contente d'accueillir ma deuxième invitée. Elle a 43 ans, elle habite au Saguenay, c'est une maman de 3 enfants. Mais attention, ouvrez bien vos oreilles parce que mon invitée fait énormément de choses dans sa vie. Elle est auteure, conférencière, influenceuse sur les réseaux sociaux, photographe, designer graphique et bien plus encore, Valérie Jessica Laporte. Bonjour!
Bonjour!
Comment tu vas?
Là, c'est chaud, là.
C'est vrai, ça donne chaud de savoir que tu fais une entrevue à la radio aujourd'hui.
Oui, puis il y avait toute la liste des choses là, que je fais. On dirait que je ne le vois pas des fois.
Non, mais on est là quand même aujourd'hui pour en parler parce que moi, j'ai envie de dire, c'est magnifique tout ce que tu fais. On se demande presque comment tu trouves ton temps pour faire tout ça, mais je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Mais j'aimerais qu'on commence pour que les gens qui nous écoutent soient au courant. Quel est ton handicap ou ta différence?
En fait, j'ai un diagnostic d'autisme léger à modéré.
D'accord.
Donc, c'est pas mal ça. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le fonctionnement du cerveau.
Et là, donc, on parle d'autisme. Ça, sachant que tu l'as su à tes 38 ans, donc ça fait 5 ans que tu es en fait consciente, que tu sais que tu as reçu ton diagnostic. On parle aussi d'Asperger. Est-ce que tu peux, en fait, nous aider à comprendre c'est quoi la différence entre les deux?
Avant, il y avait des noms différents pour identifier les différents types d'autisme, comme de Kahn à Asperger et tout ça. Et ce qui arrivait, c'est que parfois, on pouvait mettre quelqu'un Asperger, mais il peut avoir un autre gros défi qui aurait plus été dans le canard, mais on le mettait quand même là. Et ça identifiait mal les gens parce que il n'y avait pas nécessairement les services dont il y avait besoin et tout ça. Mm-hmm. Alors maintenant, ils ont tout réuni ça dans le DSM-5, la Bible des psychiatres, sous le terme trouble du spectre de l'autisme, et ils vont plutôt avec des marqueurs. Donc, on est autiste, après ça, on y va, c'est quoi nos défis? C'est pas toujours les mêmes, puis moi, mes défis vont se promener dans les différents niveaux. Donc, il y a certains de mes défis qui vont être vraiment plus bas, puis j'ai d'autres défis qui vont être très, très hauts. Donc, c'est vraiment réparti là, sur le spectre autistique.
En fait, c'est tant mieux si c'est plus précis et qu'on peut plus répondre à des besoins maintenant qu'on en connaît un peu plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, pour toi, les mots ont quand même une belle importance, oui, selon tout ce que tu fais dans ta vie. Mais pour toi, le mot handicap, c'est pas un mot que tu utilises plus souvent. Tu préfères le mot différence.
Bien, la plupart du temps, c'est une différence. Tu sais, mettons que je suis en train de travailler. Je vois que je ne travaillerai pas comme une autre personne, mais je ne me sens pas lésée dans mon travail. Ça se passe super bien. C'est un travail qui est adapté pour moi. Il est parfait pour moi. Je suis confortable. C'est le fun, mais je sais que je suis différente. Il y a vraiment des processus, des choses que je fais qui ne sont pas pareilles. Alors là, c'est de la différence. Un handicap, là, c'est quand tu es privé de quelque chose. Quand on t'enlève un privilège ou on te restreint ou tu n'arrives pas à avoir droit à ce que les autres ont droit ou alors tu perds, tu es perdant. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne va pas m'arriver souvent dans une semaine. Donc, dans une semaine complète, je ne me sentirai pas handicapée, mais il va y avoir 2 à 3 fois, peut-être, je dirais, dans ma semaine, où est-ce que je vais vraiment le sentir que là, il y a un décalage par rapport à ce que je peux faire, puis il va y avoir parfois de la souffrance là, de relier au fait d'être dans des environnements qui ne sont vraiment pas faits pour moi. Mais sinon, le reste du temps, je me sens super bien.
C'est beau, c'est tellement clair la façon dont tu l'expliques et le fait de savoir que toi-même, tu arrives à identifier ces moments où tu vas te sentir plus handicapé dans telle et telle situation versus juste différente, c'est beau de le dire comme ça.
Mais ça a dur à manquer, là. Je me sens bien, puis tout à coup, tornade, tout est écroulé. Je veux dire, c'est flagrant, là. C'est pas subtil.
mais justement, j'ai envie de que tu nous parles un peu du monde qui t'habite parce que tu es évidemment très proche de tes émotions, de tes sensations, de quand tu parles l'environnement externe. Il y a vraiment un impact sur tout ce qui est, oui, ton monde intérieur.
Oui, mais c'est sûr que le niveau sensoriel, c'est quand même assez intense. Oui. Mettons que je vais dans une épicerie. Ben là, tout de suite, en arrivant, il va y avoir le petit bip-bip du tourniquet. Mm-hmm. Il va y avoir les bruits là, des roues par terre, les bip-bip dans l'arrière des chariots dans l'arrière-boutique. Il y a les bip des caisses, il y a les odeurs, il y a les petites lumières qui vibrent. Ce n'est pas des lumières stables au plafond, c'est comme des lumières néons, puis oui. Ça fait comme des clignotants. Oui. Il y a tout le monde qui parle en même temps. Il y a trop d'affaires. Il y a des couleurs partout. C'est désordonné. C'est épouvantable. Puis là, ils ont ajouté plein de règles avec le COVID. Là, puis je suis tout le temps tout mêlé. Puis je suis tout le temps rendu du mauvais bord. Puis je sais jamais sont où les caisses. Puis j'arrive à l'envers. Puis tout l'environnement va beaucoup m'attaquer. Mais...
vas-y, je te laisse continuer.
Oui, mais d'être sursollicité par des choses à l'environnement comme ça, quand je vais arriver dans un lieu qui va être paisible, puis que tout à coup, je vais voir quelque chose qui va me happer, bien là, ça peut complètement me déclencher quelque chose d'artistique. Je vais vouloir le prendre en photo, je vais avoir un flash de perception, je vais être vraiment complètement prise dans ce qui m'arrive. Donc, il y a l'aspect positif, puis dans d'autres milieux, l'aspect négatif.
C'est fascinant, parce que c'est des détails auxquels, oui, bon, pour les personnes qui n'ont pas le trouble du spectre de l'autisme, on va les voir, on va les vivre, ces situations-là, comme nous quand on va à l'épicerie, mais jamais on va apporter une telle attention à tous ces détails qui sont présents malgré tout.
Ah, ils m'attaquent. C'est vraiment là, une attaque de toutes parts en même temps, sur tous les fronts. Là.
Et est-ce que le fait que, justement, à cause de la COVID, tu dis que les règlements sont différents, pour toi, ça complique encore plus les choses?
Ben oui, parce que déjà, je regarde très peu dans les yeux. Je vais beaucoup plus me fier aux bouches, les contractions de la bouche, la respiration de la personne. C'est les bouches, moi, qui sont un indice pour savoir comment ça va. Puis là, je me retrouve avec les gens plus de bouche. Ça me déstabilise. Même qu'au début, j'ai passé un commentaire désobligeant de caissière. J'ai dit, t'as bien de l'air désespérée, toi. Mais là, après ça, je m'entends. Je dis, mais pourquoi je parle comme ça? Je parle pas comme ça aux gens d'habitude. Je suis gentille, tu sais. Mais il y a tellement un stress intense que j'arrive pas à reconnaître les émotions. Alors, je panique puis je dis des niaiseries, tu sais. Mais c'est difficile, là, les masques puis tout ça. Puis en plus, ben ça touche à mes lunettes un peu. Puis là, c'est dans mon champ de vision. J'ai de la misère à descendre les marches. Ça prend 2 mains pour me tenir quand j'ai le masque. Parce que j'ai tout mêlé, là. Je comprends plus mes pieds. C'est trop, ça me sollicite. Mais tu sais, je le mets, là, je le fais.
Oui, mais c'est ça. Tu fais l'effort, mais ça te demande énormément d'énergie.
Oui. Ah! Mais ouais, c'est pas évident.
Ben non, ben on imagine bien. Mais là, sachant que ça fait que 5 ans que tu, que tu as reçu ton diagnostic, j'imagine que toute ta vie avant ça, tu devais le sentir au fond de toi que tu étais différente?
Ben oui, quand j'étais petite, on a passé des tests, sauf que c'était dans le début des années 80 puis c'était pas très connu. Puis je parle. Ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé à trouver parce qu'il y a des autistes qui parlent beaucoup moins, mais moi, je parle.
Oui.
Et on aurait fait un petit peu ça à l'adolescence. Et j'ai cherché aussi au cégep, mais là, ça avait vraiment rien donné dans ce temps-là. Puis, il y a quelques années, je voulais plus du tout en entendre parler du diagnostic. Je voulais pas qu'on fouille dans ma tête. J'avais peur qu'on veuille me médicamenter ou qu'on me surveille ou peu importe. Mm-hmm. Puis, il y a une amie, ben elle est devenue mon amie parce qu'elle connaissait l'autisme puis elle l'a vu tout de suite que je l'étais. Puis, elle m'a approchée, on est devenus proches et elle m'a convaincue de passer des tests au privé. Et là, j'ai pu vérifier qu'est-ce que j'avais et c'était ça, c'était vraiment l'autisme. Puis j'ai fait revérifier après par un psychiatre aussi, je voulais être bien certaine. Puis quand j'en ai parlé autour de moi, ben moi j'avais vraiment peur d'annoncer ça, là. Je pensais que c'était bien dramatique. Mais là, tout le monde m'a dit, oui, mais c'est parce qu'on essaie de te le dire depuis des années que tu es autiste, c'est juste toi qui n'es pas au courant.
Ah ouais.
Ah, OK. Ça va être correct.
Oui, c'est ça. Mais donc, au final, est-ce que c'est rassurant pour toi d'avoir ton diagnostic?
Ben oui, parce que, dans le fond, mettons que je vivais un défi, là. Moi, dans ma tête, il fallait que je lutte tout le temps contre ça, OK? Puis il fallait pas que je sois comme ça. Il fallait que je me force. Ouais. J'étais tout le temps essayé de me freiner puis à me cacher, puis je parlais très peu parce que j'avais extrêmement peur de toutes les erreurs sociales que je pouvais faire. Je bougeais très peu parce que j'avais peur de bouger d'une façon étrange ou qu'on me passe des commentaires parce que souvent, tu sais, des fois, je bouge normalement, mais souvent, je vais faire des gestes ou des mouvements qui sont atypiques, puis ça mm-hmm. paraît. Mm-hmm. Puis là, j'étais tout le temps dans la peur de ça, puis parano, puis là, j'ai juste, je le sais, le monde le savent, ça m'enlève un stress énorme. Quand il y a quelque chose, ils ne sont pas à s'inquiéter de, ben voyons, es-tu en train de faire un AVC? Non, non, je suis juste déstabilisée d'un mois, deux minutes, tu sais. Des fois, c'est ça, ça peut surprendre. Puis quand on le sait, ben ça surprend beaucoup moins puis ça m'enlève énormément de pression, là. C'est fou, là. J'ai l'impression, là, d'avoir perdu 200 livres. C'est...
Mais tant mieux si ça te libère de ce poids-là parce que c'est incroyable à quel point... En fait, tu te contenais, tu te permettais pas d'être toi-même.
Tout le temps, sauf chez moi.
Okay.
Chez moi, c'était pas pareil. Tu sais, mettons, avec mon amoureux, là, c'était complètement moi. Mais il y avait juste lui qui avait la vraie moi. Puis c'est il disait, il dit, mettons, on sortait, il dit, je comprends pas. Il dit, t'arrêtes pas de parler deux minutes à la maison. Mm-hmm. Dès que je te mène quelque part, pouf, il se passe plus rien. Mm. Ben, c'est ça, j'avais peur, c'était pas chez moi. Ouais.
Et là, tu me parles de ton amoureux, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Ça doit faire 19 ans.
Wow! 19
ans. Oui.
Incroyable!
Peut-être 18, je suis plus sûre.
Mais
en tout cas,
quand même, c'est...
dans ces alentours-là.
Oui, c'est ça. Mais puis justement, ton conjoint, parce que lui, je sais que lui ne vit pas avec le trouble du spectre de l'autisme. Les gens en souvent pensent que parce qu'on a un TSA, on est systématiquement en couple avec une autre personne qui a un TSA, mais c'est complètement fou, non?
Ça serait tannant, là, parce que... Dans le fond, on se retrouverait avec les mêmes défis.
Oui.
Là, c'est qui les affronte, ce défi-là? T'sais, là, on a pu tout diviser nos tâches d'une façon qui est très juste, mais pas pour les mêmes raisons. Tu sais, il y a des choses que je fais pas parce que moi, c'est beaucoup trop souffrant. Puis, en échange, lui, il y a des choses qu'il fait pas parce qu'il aime juste pas ça. Donc, ça nous a permis de diviser complètement les tâches d'une façon juste, mm-hmm. parce que c'est pas mieux s'il y a une personne qui s'occupe de l'autre. C'est injuste dans un couple, puis ça protège pas juste la personne qui s'occuperait de l'autre. Ça protège l'autre pour pas être dépendant de l'autre personne, pour pas être en position d'infériorité.
Et
un couple,
voilà.
C'est supposé d'être égal. Pas rien qu'égal ses tâches, mais égal aussi sur l'influence qu'on a, les décisions, puis tout ça. Puis si t'en as un qui s'occupe de tout, ben l'autre, il se retrouve minoritaire.
Oui.
Fait qu'on a vraiment organisé ça très juste. Donc, lui, il touche jamais au ménage, mais ça me dérange absolument pas parce que moi, j'ai pas besoin de faire l'épicerie. Tu sais, il fait des tâches qui m'écartent trop, que je surcharge trop quand je fais, puis j'ai fait juste quand on n'a pas le choix ou quand il est pas là ou des choses comme ça, puis c'est tout parfait.
Ah oui, c'est beau comme ça. En fait, c'est votre équilibre à vous. Et ce que je trouve magnifique, c'est que ton conjoint, ton amoureux, lui, a un énorme sens de l'humour et il cherchait une femme qui est très spontanée, transparente. Et lui, tu me dis, il a horreur des non-dits. Donc, avec toi, il est aux anges.
Oui, parce qu'il n'y a jamais d'affaire qui ne sait pas. Ou, tu sais, mettons, je vais pas dire, non, ça va.
Oui.
Je fais pas ça, là,
oui.
Jamais. Là. S'il me dit, c'est quoi qu'il y a, il va le savoir tout de suite. Tu sais, il n'y aura pas à chercher, il n'y aura pas... Puis, je suis incapable de bouder, en plus. Là. Des fois, j'essaye. T'sais, il fait des affaires, il mériterait.
Oui.
Mettons, il fait tomber de quoi, il brise quelque chose, ou peu importe. Puis j'essaye de bouder, mais tu sais, ça dure 3 minutes et 4. Puis c'est pas... Je suis tellement dans le moment de ce qui se passe là que c'est fini, là.
Mais parlant du moment présent, on va aller écouter une chanson que tu as choisie qui a une énorme signification pour toi.
Ah oui.
Mais j'en parle pas plus, on vous garde le suspense et tu vas nous expliquer après pourquoi cette chanson-là est importante pour toi. On se retrouve tout de suite après.
I got the letter back saying I can come and see you. I really don't have time, but promised that I'd come and see you. You're sitting far away, but do you know I
sometimes need you. I know that you deserve the time you got of all the people. I know you never bend, even in the strongest wind. I really wish to every God that you were innocent. I'm happy and I'm proud that I can still call you my friend. I hope you read the letters and the magazines I send. You got your head up, but I don't have my hopes high. I know that you're a good man, and that's what brings a tear to my eye. I'm like, oh, together. You told me back then that I was meant for something better. You know in our life nothing's gonna change but the weather. It seems it's been forever since we really stuck together. I'm living a crazy life, I wish that you could see it too. See a thousand people sing my song from me to you. Every time I sing it, you know I'm pleading too. Driving, moving hard. They tried to get you down, but you refused to die. They tried to give you angel wings, but you refused to fly. You'd rather stay in hell and take your time in jail. They're only punishing a soul that you will never tell. We both know that we owe nothing to each other, but can you blame me for loving and missing my brother?
C'était la chanson « Better Than Yourself » de Lucas Graham. Et Valérie Jessica, c'est une chanson que tu as choisie pour une raison très précise. Laquelle?
Ben, si, là, faut, là, ça m'a trop calmée. Là. J'ai essayé de me remettre dedans, je suis toute ramollie. OK. Ben, dans mon téléphone, sur l'écran d'accueil, il y a un bouton rouge avec un triangle d'un point d'exclamation dedans. Et en dessous, c'est écrit « surcharge ». Si je suis vraiment dans le trouble, que je suis vraiment proche de me faire une bonne panique puis que je suis encore assez correct juste pour peser sur un bouton, je pèse dessus, ça démarre cette chanson-là. Cette chanson-là, elle me dessine des rectangles dans le cerveau, tout aplati, séparé par des espaces. Puis ces espaces-là me font respirer. Quand ils chantent, là, c'est tout bien séparé. Ils articulent, il y a des pauses en chaque affaire, ils ne mélangent pas. C'est tous des petits bouts de séquence. Ça structure la tête. Là. On dirait que ma tête, ça devient des petits rectangles séparés. Puis ça évite que tout se mélange comme un gros bordel. Ça me structure. C'est vraiment...
C'est comme une bouée. Une bouée de sauvetage pour toi.
Ouais, comme un gros ménage. Un gros ménage.
J'adore t'entendre décrire les sensations, les formes et à quel point ça te fait du bien. Donc, à quel point le son et la musique peuvent avoir un impact autant positif que négatif sur toi.
Les deux. Oui,
ouais, c'est ça.
Ouais. C'est pour ça que je voudrais pas, maintenant, je pourrais, là, plus être autiste, là. Je le prends pas. Parce que tout ça, je le veux aussi. Tu sais, la musique, là, moi, là, c'est comme, oh, c'est extraordinaire. Puis là, maintenant qu'on a accès à des technologies, j'en rêvais quand j'étais petite, là, le jour où je vais pouvoir acheter toute la musique que je veux puis la mettre toute ensemble dans un appareil. Oh!
Tu pars dans un autre monde, là.
Ah, j'adore ça, puis ça me crée des ambiances. J'ai plein de listes de lecture pour exactement ce que je veux aller chercher. Mais j'en ai des fois que, maintenant, je cours, mais là, j'ai l'impression de flotter. On dirait que je pense plus, je flotte.
Ah, c'est bon. On dirait qu'on vit avec toi les exemples de sensations que tu nous partages. Et d'ailleurs, tu en as plusieurs à nous partager. J'ai envie, parce que, en fait, tu as créé un blog sur Internet qui s'appelle Royaume d'une Asperger.
Oui, au Royaume d'une Asperger.
Au Royaume, oui. Exactement. Au Royaume d'une Asperger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes sur ce blog?
Bien, la première fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait conseillé d'écrire comment je me sentais quand j'allais chez le dentiste parce que ça me prenait 2 semaines à m'en remettre à chaque fois. Là, j'ai écrit un article juste pour moi, puis j'ai trouvé ça bien, bien drôle, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça instructif, ça m'a permis de tout structurer ce qui s'était passé, d'analyser mes sentiments, mes émotions. Ce qui m'arrive, que quand je le reçois tout croche en gros paquet mélangé, comme de passer tout au mélangeur, là. Puis ça fait comme tout bien classé. Puis là, j'ai dit, hey, c'est fun d'écrire. Puis en plus, ça m'a pris juste 3 jours pour m'en mettre du dentiste au lieu de 2 semaines. Alors, ça a décollé de même. Puis là, je me suis mis à tout raconter et à tout expliquer. Et là, ça c'est devenu quand même bien connu. J'ai eu des demandes de participation sur plusieurs magazines et tout ça.
Oui.
Puis la Fédération québécoise de l'autisme s'est intéressée à moi, m'a donné un prix. Puis, tu sais, il y a eu plein de choses. Les gens, ils aiment ça. Ça explique beaucoup. Moi, j'ai du plaisir à le faire aussi.
Ah, ben écoute, le fait que toi, tu aies du plaisir à le faire, c'est génial. Mais nous, en tout cas, juste de te parler en ce moment, et je pense les gens qui te lisent sur ton blog et qui lisent aussi ton livre parce que tu as écrit un roman dont le titre est « Méconnaissable », je suis sûre que les gens ont énormément de plaisir à te lire aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi le message que tu passes à travers ton roman?
Ben, à la base, c'est une belle aventure, c'est un gros suspense, puis l'histoire est super intéressante, mais je la fais vivre à travers quelqu'un qui a mon cerveau. Alors, c'est vraiment comme une immersion totale dans un cerveau autiste. Puis, c'est sûr que le message, c'est beaucoup être soi-même, arrêter de pas imposer aux autres de faire des petits robots.
Oui.
C'est l'humain avant tout. Il y a ce message-là beaucoup qui va ressortir, donc c'est un enfant qui se cherche, qui revient grandi de ça, mais à travers une aventure où est-ce que c'est pas reposant.
Tu le dis en prenant ton souffle, justement.
Oui.
Mais t'as reçu un prix littéraire aussi.
Oui, découverte au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Mais je veux, Valérie, Jessica, que tu nous racontes en fait des exemples de, un peu comme tu nous as raconté la musique, quel effet elle a sur toi. Quand, par exemple, tu vas manger un bonbon, un Lifesavers,
oh oui.
Qu'est-ce que ça fait pour toi?
Mais là, c'est ça. Oh, mais écoute, il y a un sens, là, puis il y a toute une position à comment le placer, parce que sinon, ça peut tout crachiner le palais, là. Il y a comme des côtés plus rugueux. Là, il faut vraiment le mettre de l'autre bord, puis là, il faut tout têter l'autre côté, puis là, il y a un côté qui devient plat, l'autre qui reste rond, fait que ça fait comme un petit canot inversé, puis là, juste quand il est prêt, là, il s'en va à bonne place dans la bouche, puis moi, là, chaque petit détail de comment il est placé, sa signification, l'effet bouée, justement, j'aime l'idée que c'est quelque chose qui illustre une bouée, ça me plaît. Puis les saveurs, écoute, je comprends les enfants qui ont des grosses rigidités alimentaires, parce que c'est vraiment intense, la nourriture.
Mais oui, c'est vrai.
Mais je suis chanceuse, j'en ai pas vraiment, là, à part que j'aime pas les affaires mauvaises pour la santé trop. Ben,
avec
bon,
raison.
Oui, là.
Ben, c'est ça.
Mais,
Mais puis si on parle de chips, les Doritos, par exemple,
ouais.
eux, c'est qu'est-ce que ça t'inspire?
Écoute, le bruit, déjà, juste le bruit, c'est extraordinaire. Il y a plein de petites bulles, OK, toutes pas égales. Là, tu peux juste les écraser une à une. Après ça, il y a la petite poudre qui recouvre les petites bulles. Fait que, tu sais, tu commences par tout enlever la petite poudre. Après ça, tu pètes les petites bulles. Là, après ça, ça s'effrite. Là, ça devient comme la pâte plus égale. Là, le bruit change. Puis là, après, tu peux commencer tranquillement à penser de le manger, tu sais. Mais tellement d'informations. Mm-hmm. Mais c'est surtout dans les premières. T'sais, après 4-5, le gros buzz, il arrête. Mais la nourriture, ça peut être vraiment particulier, là.
Complètement. En tout cas, on l'entend bien. Et comme on est sur cette lancée-là, j'adore tes anecdotes aussi. Parce que quand tu dis que pour toi, tes interactions avec les gens, en lien avec c'est ça, tes réactions, tes comportements que tu contrôles ou que tu ne contrôles pas, ben, ça crée toutes sortes de situations. J'aimerais que tu me racontes une anecdote que tu as vécue au camping.
Oh, la fête! OK. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça. C'est désolant, mais je suis un petit peu rigide. Ben, ça, c'est pas désolant d'être rigide là-dessus, mais la sécurité, ça m'obsède complètement. Puis le monde, ils mettent n'importe quoi dans les feux, puis je suis tannante, là. Je suis comme tout le monde parce qu'ils mettent toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a un monsieur qui est arrivé, puis là, il m'a donné du bois pour mettre dans mon feu. Mais tu sais, il y avait de la peinture dessus, puis je me suis un petit peu fâchée après. Mais finalement, tu sais, le monsieur était très malade, puis j'ai fait de la peine, il filait pas. Là, je pleurais, tout le monde pleurait. Ça, c'est pas le fun, là. Des fois, ça me fait faire des gaffes sociales qui sont plus drôles que ça. Mais c'est sûr que la rigidité, je suis pas capable de passer par-dessus ça.
Mm-hmm.
Ouais.
Et une blague plus drôle, est-ce que la blague du cuisseur, c'est quelque chose que tu trouves plus drôle à raconter?
Quand même, ben c'est avec plein de personnes, on avait le même ensemble de vélos. Puis là, finalement, il me faisait plus au niveau des fesses. Alors là, j'ai bien cherché quelle fille avait les fesses juste un peu plus grosses que moi. Et j'ai bien regardé, là, j'y ai mentionné que ses fesses étaient plus grosses que les miennes, ce qu'il fallait pas faire pour savoir si elle voulait mon cuisseur. Et là, elle m'a regardé d'un air dédaigneux. Alors là, moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être l'affaire des bobettes. J'ai dit, ben moi, je porte des petites culottes en dessous. Là, elle m'a regardé encore plus fâchée. Là, j'ai regardé, elle en portait aussi. J'ai mentionné, j'ai dit, ben on le voit, toi aussi, t'en mets, c'est pas dégueu d'abord. Puis les deux, on en porte. Là, ça a été pire que tout. Puis bon, c'est ça. C'est souvent comme ça. J'ai des alertes dans ma tête pour plein de sujets que je sais. Tu sais, va pas là, va pas là, va pas là, va pas là. Mais j'avais pas le sujet cuisseur. Il était pas bête à l'air. Ben, il l'est toujours pas. Mais, tu sais, il y a des sujets que je le sais que ça fait, mettons, 10 fois que quelqu'un se fâche pour ce sujet-là. On y touche plus.
Et voilà. Tu t'habitues. Et là, parce que moi, j'adore t'entendre, Valérie, Jessica, ton autre anecdote du souper des patrons de ton conjoint.
Oh, pauvre lui. Ah, j'étais dans un cercle avec tout le souper des patrons. Là, il y a une dame qui arrive avec une super belle robe bleue. Moi, je capote sur le bleu. Là, si vous regardez mes affaires sur Internet, j'ai plein de bleus. En tout cas, là, elle arrive avec sa belle robe. Là, j'ai dit, ma fille a failli... J'étais allée pour magasiner, je l'ai essayé. Ma fille voulait vraiment que j'achète celle-là. J'ai failli l'acheter, je l'ai pas achetée. Elle me demande, mais pourquoi tu l'as pas achetée? J'ai dit, ben, c'était bien trop décolleté, on voyait tout. Mais là, tout le cercle des patrons l'ont entendu. Puis là, mon conjoint, il s'est fait un gros silence. Tout le monde arrêtait de parler. Là, il a dit, t'as pas dit ça? Fait que là, finalement, il a dit, ben, j'avais pas encore mon diagnostic, fait qu'il a dit que c'est parce que j'étais une artiste, il savait pas quoi dire, il était trop découragé, mais finalement, artiste puis autiste, il y a juste une note de différence, puis
voilà, ça se rapprochait quand même. Ah, c'est excellent. Pour terminer, Valérie, Jessica, j'aimerais te demander quel est le message que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
Ben, il y a rien de dramatique, OK? Si on fait juste arrêter de paniquer, là, juste, il arrive quelque chose, on laisse passer, on est nous-mêmes. Quand la personne ne fait pas de mal à quelqu'un ou qu'elle fait pas de mal à elle-même, le reste, là, c'est pas tant important. Les apparences, avoir l'air fou, se conformer, tu sais, c'est juste, on s'en fout. On peut juste être heureux de tout le monde puis atteindre notre plein potentiel sans se mettre des barrières, là.
Que c'est beau. C'est magnifique comme message. J'espère que tout le monde l'a bien entendu. Et en tout cas, moi, je te dis un énorme merci, Valérie, Jessica, Laporte, et je te souhaite bonne chance dans tout tes projets.
Merci!
Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres et d'avoir eu du plaisir avec nous, j'en suis certaine. Comme toujours, je vous invite à aller sur le site canalm.vusezvoix.com si vous voulez réécouter les émissions ou les partager avec vos proches. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes de diffusion de balado. Je remercie toute mon équipe, Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore et je vous dis à la semaine prochaine.